t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Radio Kapi qui vous propose parole aux auditeurs. La direction du parc des Virunga a annoncé mardi 29 mai dernier avoir suspendu pour 20 jours les activités touristiques dans cet espace protégé de l'Est de la République démocratique du Congo après le meurtre d'une garde-parc et l'enlèvement de 2 touristes britanniques. Selon le communiqué publié, le personnel de sécurité évalue la situation sur le terrain afin de garantir que les mesures requises sont en place afin de reprendre les activités touristiques. Selon vous, que faut-il faire pour relancer la confiance auprès des touristes? Rejoignez-nous au 081-890-4969-09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Claude Nsiala est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba. Gir Lungembo est à la coordination et Pierrot Elamegi vous le présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Nul n'ignore que l'activité touristique génère de recettes pour le pays et particulièrement pour la province du Nord Kivu. La suspension des activités touristiques a-t-elle des conséquences sur la mobilisation de recettes? Mais comment aussi arriver à assurer la sécurité et redonner confiance aux touristes dans cet espace protégé de la RDC? Nous en parlons avec vous et nous avons associé à cet échange le ministre provincial de l'Environnement et Tourisme, Monsieur Olivier Bonigaba. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Je sais que vous avez une activité officielle. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Alors, on sait que le parc des Virunga a quand même une certaine fréquence en termes d'activité touristique et qu'il y a des cas d'insécurité qui y sont perpétrés, déstabilisent cela. Aujourd'hui, quelle est la conséquence de cette suspension d'activité sur la capacité de mobilisation des recettes dans le domaine touristique dans votre province?
Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord faire la configuration un peu de l'industrie touristique au niveau de la province du Nord Kivu. Vous savez très bien que le Nord Kivu est réputé capitale touristique de la République démocratique du Congo, vu ses sites touristiques et potentialités touristiques exceptionnelles qu'elle regorge. Au niveau du parc national de Virunga, comme site du patrimoine mondial de l'humanité, également une richesse exceptionnelle de biodiversité et aussi des paysages, nous avons connu un moment très difficile, dur pour le tourisme et pour l'industrie touristique en province. Depuis les événements malheureux qui se sont passés par le kidnapping des touristes, les activités du tourisme ont été suspendues au parc national de Virunga. Alors, ce qu'on peut enregistrer comme conséquence, c'est que sur les 4 secteurs composant l'industrie touristique, notamment le secteur d'hébergement, des hôtels, des transports avec les agences de voyage, la restauration avec les différents restaurants, mais aussi sur les sites eux-mêmes d'animation, donc dans le cadre des centres de loisirs, nous avons ressenti un coup dur parce que les activités touristiques étant suspendues, on ressent cela, ce coup dur du point de vue social, du point de vue économique, au niveau aussi social de la population. Au niveau économique, vous allez vous rendre compte que rien que pour l'année 2017, le secteur du tourisme au parc national de Virunga avait généré autour de 13 956 nuitées. 13 958 nuitées, c'est énorme. Et il y a des bénéfices et des avantages sociaux qui découlent de l'activité touristique au niveau du parc. Mais depuis cette suspension, tous les lodges sont fermés et on constate aussi la baisse de la fréquentation et même du taux d'occupation dans les hôtels de la place au niveau des villes, au niveau à travers la province, mais également au niveau des agences de voyage. Les flux touristiques ont baissé très sensiblement parce que tous les touristes qui venaient maintenant pour le parc ne viennent plus à cause de cette suspension. Alors, il n'y a que quelques activités touristiques au niveau urbain qui viennent dans le cadre des autres formes du tourisme, comme le tourisme d'affaires, de conférences et autres. Mais vous comprenez que vraiment cela a impacté très négativement sur la situation socio-économique de la population.
Ok. Mais quand on... Vous l'avez dit. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé des 13 950 unités. Est-ce qu'en termes d'argent pour l'année 2017, cela représente quoi? Est-ce qu'on peut avoir une estimation en termes de recettes?
Oui, en termes de recettes touristiques, il y a lieu de calculer parce que la nuitée coûte en moyenne entre 40 et 100 dollars au niveau des lodges de Virunga dans son ensemble. Mais également, on peut constater que il y a là où les lodges et les autres sites d'hébergement coûte un peu plus cher que ça. Donc, si vous estimez 13 956, multiplié simplement environ à 50 dollars en moyenne, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de recettes touristiques que nous sommes en train de perdre. Et rien que cela, à part cela, il y a aussi, par rapport aux flux touristiques qui ont baissé, les agences de voyage qui ne trouvent plus des touristes qui visitent les parcs et les autres sites de la province. Donc, il y a tout un manque à gagner au niveau de l'industrie touristique, mais au niveau aussi socio-économique de la population.
Mais aujourd'hui, par rapport aux mesures, parce qu'on a suspendu, il faudrait revenir au niveau du gouvernement provincial. Quelles ont été les mesures qui ont été mises en place aujourd'hui pour arriver à faire face à cette situation?
Oui, les mesures, les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour travailler sur cette question, parce que la matière sécuritaire... Alors, il y a des experts qui sont en train de travailler sur la question. Et d'un moment à l'autre, nous espérons peut-être reprendre les activités touristiques. Mais cela, bien évidemment, doit découler de l'assurance que nous devons garantir à tous les touristes nationaux et internationaux qui veulent visiter le Nord Kivu et particulièrement le parc national de Virunga.
Mais on sait que la question sécuritaire, est-ce qu'elle est souvent abordée d'une manière transversale, que ce soit non seulement avec la RDC ou bien avec deux pays voisins, pour voir comment il faut contrôler les flux de population, mais aussi des groupes armés qui sévissent dans la région. Est-ce que la question est-elle abordée entre la RDC et les pays voisins?
Oui, il y a un mécanisme transfrontalier, monsieur le journaliste, qu'on appelle le Greater Virunga Transboundary Collaboration. C'est en fait un mécanisme tripartite qui réunit l'Ouganda, le Rwanda et la RDC pour traiter des questions sur la conservation de la biodiversité, le tourisme et même le développement socio-économique des populations dans les paysages Virunga. Alors, toutes ces questions sont évoquées à travers ce mécanisme et les trois pays se partagent des informations pour voir comment trouver des voies et moyens pour améliorer le secteur et l'industrie touristique dans son ensemble.
On vous garde encore, monsieur le ministre, le temps de pouvoir écouter deux, trois auditeurs en attendant que vous puissiez commencer la manifestation officielle que vous avez. Nous allons partager encore un peu avec les auditeurs Roland et Talbumbashi, mais nous avons aussi sur place à Goma le confrère Touvert Ondi, qui est journaliste environnementaliste, avec qui on va aussi analyser cette question. On vous garde, monsieur le ministre. En attendant, on écoute Roland qui est à Lubumbashi. Roland, merci d'être avec nous. Bonjour. Roland, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, Roland est distrait sur sa ligne. Voilà, en attendant, on retourne à Goma, Touvert Ondi. Nous avions abordé avec vous il y a quelques temps la situation du parc de Virunga, la situation de l'insécurité. Mais au niveau de la société civile, quelle peut être aujourd'hui la part de la contribution de la société civile vu l'importance de l'activité touristique au parc de Virunga, Touvert Ondi?
Il faudra dire que, Biro, merci d'abord pour l'invitation. La société civile devra aujourd'hui sensibiliser
les différentes communautés qui bénéficient des revenus touristiques. Prenez par exemple la dernière action ou le dernier incident qui s'est passé dans le Nyiragongo où les touristes ont été kidnappés. Il faille qu'au niveau de la société civile, qu'on mette des mécanismes capables de sensibiliser davantage les communautés à tenir compte de l'autodéfense. Ça, c'est parmi les choses que je peux dire. Une autodéfense, ça veut dire voir les mouvements suspects et les dénoncer auprès des services pour que les services puissent arriver à les élaguer directement avant qu'ils ne puissent venir, mais aussi donner l'information à l'ICFM au cas où ils sont en train de suivre des mouvements qui peuvent arrêter les cas de tourisme. Comme venait de dire tout à l'heure le ministre Olivier, en fait, sous les plans, d'abord, je peux donner un exemple clair au niveau de Kibati, au pied du volcan Nyiragongo. Chaque porteur qui amenait les colis, même un petit bagage d'un touriste au sommet est retourné avec $12 pour la course en aller-retour. Aujourd'hui, depuis que le tourisme est suspendu, tous ces porteurs-là sont même croisés au pied du volcan. Ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent plus comment parachever leurs différents projets. Et là, la société civile devrait jouer un rôle, d'abord, de demander à la population locale d'être une vigile pour les conservateurs ou les gardes, les éco-gardes, mais aussi de développer des mécanismes capables d'assurer une durabilité des revenus qu'ils sont en train de recevoir ici du tourisme. Ça, je dis seulement pour un porteur d'un petit bagage, d'un touriste qui va passer nuit au volcan. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est autour de la traçabilité des différents revenus issus du tourisme. Il y a 30% de frais issus du tourisme qui sont donnés par l'ICSN au profit des projets de développement local. La société civile devrait s'approprier ce genre d'action parce que les 30% c'est sur l'argent brut que le touriste paye. Et donc, la société civile devrait développer ensemble avec les communautés, au sein des communautés, des projets de parcs durables pour montrer à toutes les différentes personnes qui vivent autour des sites touristiques que grâce à la préservation de la nature, grâce à cet écotourisme, nous pouvons développer de telle ou telle autre manière. Mais cela existe déjà à faible niveau. J'espère qu'il y a encore un grand travail à faire par la société civile du Rwanda.
Oui, on vous garde le temps d'écouter Roland. C'est très bon maintenant. Roland est avec nous de Lubumbashi. Roland, bonjour.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Roland.
Oui, par rapport à la thématique du jour, j'ai bien suivi notre invité, à qui je salue aussi à tout le conditionnel de la radio Okapi. Mais dis-moi, nous devons savoir une chose, que nous ne devons pas privilégier que le secteur minier comme étant un secteur qui peut émerger notre pays. Nous avons aussi le secteur touristique parce que notre État, nous sommes d'autres nations, nous gouvernons beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui il y a une insécurité telle que les agents aujourd'hui sont en train de le réclamer, c'est sûr que aussi voir que l'État a failli les contrôles dans d'autres cas. Comment voulez-vous que dans 2 ou 3 jours, qu'ils aient enregistré plusieurs morts, qu'ils aient enregistré autant de pertes d'avis humaines? Or, c'est le secteur qui amène aussi, qui nous fait aussi égorger beaucoup de moyens dans notre caisse de l'État. Hormis cela aussi, vous devez savoir que quand le visiteur arrive, le visiteur doit d'abord s'assurer sur sa sécurité. Il doit d'abord s'assurer que quand il voit parcourir de grandes forêts comme ça, il est sécurisé, il doit côtoyer des hôtels, il doit côtoyer... Donc, tout ça, l'État a un grand rôle à jouer.
Donc,
quant à moi, j'ai toujours dit que notre État, il est en perte de vitesse. Si jamais qu'il a perdu de vitesse dans d'autres secteurs, mais voilà, aujourd'hui, même dans le secteur touristique, nous nous rattrapons encore toujours en perte de vitesse. Ça vraiment, ça, c'est le rôle de l'État qui doit jouer un grand rôle.
Voilà. Vous dites, Roland, que c'est le rôle de l'État. On revient au ministre rapidement pour pouvoir aussi les libérer, monsieur Olivier Bonigaba. Est-ce qu'y a-t-il aujourd'hui des mesures particulières sur le plan sécuritaire? On sait qu'il y a des gardes-parcs, mais faudrait-il aujourd'hui les adjoindre d'autres unités d'élite qui peuvent quand même donner cette confiance aux touristes pour qu'on s'assure vraiment qu'il y a la sécurité assurée au niveau de ce parc?
Oui, effectivement, monsieur le journaliste, il y a des mesures particulières qui sont en train d'être mises en œuvre, parce que au niveau du parc national de Virunga, comme vous l'avez si bien dit, il y a des unités de garde des parcs qui sont chargées de la protection non seulement des écosystèmes et des sites du parc national de Virunga, mais également de la protection des touristes et du personnel qui travaille dans le parc national de Virunga. Alors, comme je l'ai dit, il y a des experts qui sont en train de travailler sur la question pour voir est-ce que les conditions, essayer de faire une sorte d'analyse saute pour déterminer est-ce que par rapport aux faiblesses qu'il y a, parce que vous savez, le tourisme, effectivement, il est tributaire de la paix. Il faut absolument la paix pour développer l'industrie touristique. Alors, c'est pour cette raison que, hormis les efforts que le gouvernement déploie chaque jour pour la stabilité de l'Est de la RDC, l'IFFN se déploie également. Vous savez, il y a des pertes énormes qu'on a enregistrées dans les rangs des gardes de parc qui ont offert les sacrifices jusqu'au sacrifice ultime pour la conservation du parc national de Virunga. Donc je vais rassurer qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Et lorsque on va juger le moment opportun, la stabilité, la sécurité garantie pour les touristes, tant nationaux qu'internationaux, on devoir ouvrir
le parc,
pour les industries touristiques à travers le parc national de Virunga.
Merci beaucoup, monsieur Olivier Bonigaba. Vous avez une activité officielle. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions dans parole aux auditeurs. Nous restons dans la région avec vous, Touvert Ondi. On venait d'analyser le rôle de la société civile lors de votre dernière intervention dans cette émission. Vous auriez souhaité voir que le mécanisme de sécurisation puisse aller un peu plus loin, non seulement avec le garde-parc. Vous aviez souhaité d'ailleurs cela lors de la dernière émission Parole aux auditeurs.
Oui, j'avais dit que, en fait, en RDC, on a eu à avoir de bons textes. Je reviens sur l'application du décret du Premier ministre portant la création d'une brigade verte, pratiquement. Il faille que cette brigade soit opérationnelle. Nous attendons toujours que la brigade spécialisée qui va contenir les militaires des RDC et les officiers des renseignements viennent travailler à côté de ces éco-gardes pour que finalement on puisse créer une brigade d'intervention et de réaction rapide. Les éco-gardes d'eux-mêmes ne peuvent pas aller au-delà de l'air protégé parce que leur champ est limité dans les parcs nationaux et peut-être à quelques mètres de ces parcs nationaux pour les gens qui veulent l'envahir. Mais avec la brigade de protection qui a été déjà structuré par ce base du décret, nous attendons, nous crions à corps et écrit avec tous les acteurs de la société civile que cette brigade soit opérationnelle. Parce que si cette brigade est opérationnelle, Pierrot, nous aurons des officiers des renseignements, nous aurons des services des renseignements qui vont chaque fois faire des alertes. La perte que le Nord Kivu ou que de la RDC va subir dans cette suspension, elle sera bientôt palpable. Imaginez-vous que chaque touriste qui venait au Nord Kivu pour visiter le parc national de Virunga payait à l'entrée seulement à la douane de la RDC, à la DGM, payait $100 de visa touristique qui était valable pour 8 jours. Donc, ces $100-là, autant de touristes, nous ne les aurons plus. À côté de ce que le ministre venait de dire tout à l'heure, les nuitées, les restaurants, les taxis, je suis en train de suivre les différentes personnes qui ont leur propre voiture qui faisait louer aux touristes quand ils arrivaient à la Grande Barrière. Une petite course de la Grande Barrière de Goma vers Kiba qui coûtait au minimum $100 en aller-retour. Donc, cet argent-là ne sera plus dans les caisses de ces taxis-mêmes-là. Une petite course de Goma vers Bukima ou vers Djomba ou vers Kibumba dans le cadre de la visite au Gori donnait plus ou moins $150 ou $200 à ces propriétaires de Jeep. Ils n'en auront plus pour le moment jusqu'à la levée de la suspension parce que la suspension court, selon toutes les informations, jusqu'à la fin de l'année. Et probablement, le tourisme pourrait démarrer en 2019. Et donc, ça, c'est vraiment le manque à gagner. Et donc, moi, je continue à soutenir avec tous les autres acteurs du secteur de l'environnement et du développement qu'il faille qu'on applique, qu'on mette en application ce décret du Premier ministre, signé déjà depuis 2015, pour qu'on puisse réellement appuyer ces éco-gardes. 170 éco-gardes tués en moins de 10 ans, c'est trop. Et ils ne peuvent pas, mais malheureusement, ils sont tués souvent quand ils viennent en intervention avec un peu de retard. Mais aussi à l'interne, au niveau de l'ICSN, je présume qu'il faille revisiter le système d'alerte en interne. Parce que les informations peuvent venir de certaines communautés bien structurées dans les cadres spécialement pour le secteur des gorilles, les jugos, les human and gorilla, qui alertent parfois quand les gorilles débordent ou même quand ils voient des faux mouvements. Alors, il faille que ces différentes informations dans le système interne du parc national des Virunga, dans la sécurisation interne, qu'on arrive à prendre en considération ces genres d'alerte pour éviter de tomber dans les embuscades et pour éviter également de courir après l'action des fautes qui est commis contre les troupes.
Ouais, on va écouter Grâce qui nous appelle de Kikwit dans la province de Kwilu. Grâce, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Kato.
On vous écoute, Grâce.
Oui, merci beaucoup pour nous avoir associés au débat. Le débat, il est important. Vous savez que la RDC, c'est un pays à vocation touristique. Malheureusement, de la part de l'État, aucun effort n'est consenti pour valoriser ce secteur. Vous allez vous rendre compte que les touristes sont insécurisés. C'est comme ça que ce secteur n'est pas valorisé. C'est comme ça que j'aimerais demander au ministre et l'invité, quels sont les efforts que l'État met en place pour sécuriser les touristes et quels sont les projets pour vraiment développer ce secteur. Parce que c'est un secteur, s'il est développé, il peut ramener beaucoup d'argent à l'État congolais, il va créer beaucoup d'emplois, mais on se rend compte que c'est vraiment un secteur négligé. Et je me suis toujours demandé quel est le rôle de ces ministres en charge de ce secteur. Parce qu'on se rend compte comme si à ce côté, l'État est inexistant, alors que c'est un secteur important pour le pays.
Merci beaucoup, Grâce. Vous estimez que le secteur touristique semble être négligé alors que c'est un secteur très important. Qu'est-ce que le gouvernement en fait? Et là, nous penchons dans ces débats comment arriver à trouver des solutions autour de cette question du parc des Virunga qui est quand même un grand patrimoine sur le plan touristique dans notre pays. On reste à Kikwit avec vous, Arsène. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, je crois à mon avis, il faut voir un peu le Congo dans son ensemble avant de découper, voir quel coin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut visiter. Un jour, j'ai pris mon temps de passer sur le net, visiter mon pays. Vraiment, il ne faut pas s'attendre seulement au parc des Virunga, parc 2. C'est le Congo tout entier. Le Congo tout entier, c'est un milieu où si quelqu'un veut bien vivre, il veut bien vivre et voir ce que Dieu a réalisé sur cette terre, vraiment, nous ferons beaucoup de choses, beaucoup. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que seulement avec le domaine du tourisme, nous pouvons développer ces pays. Il suffit seulement que les Congolais soient tranquilles, qu'ils soient en paix. Le mot paix, paix, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais nous avons affaire à des gouvernants qui trouvent que derrière la guerre, derrière des batailles par-ci par-là, Maïmaï, M23, tout ça, qu'on peut trouver le moyen, l'argent pour devenir riche ou millionnaire dans ce pays. Donc, le Congo, avec ses gouvernants, doit au départ voir l'environnement congolais, le répartir, faire la répartition des terres, c'est ce qu'on appelle l'affectation des terres. Nous devons affecter chaque kilomètre carré de ce pays à un domaine bien précis. Donc, si nous arrivons à ce point-là, vous verrez que les gens vont courir, venir ici chez nous uniquement pour visiter le pays. Uniquement seulement. Sans voir des mines, sans voir autre chose. Et pour ça, pour réussir, il faut d'abord ce que j'appelle moi le civisme politique. Dès que nous avons le civisme politique, nous serons tout arrangés. Donc, du civisme politique viendra la paix. Et la paix ne peut venir que dans une tranquillité morale correcte. Et dans ce civisme-là, nous irons très loin. Nous allons bâtir de belles maisons. Les gens viendront visiter. Nous allons bâtir de belles cases. Vous voyez, par exemple, dans le parc, il faut un immeuble dans un parc. Non, il suffit d'une petite case bien aménagée, propre, et contre les moustiques ou autres choses. Vous verrez que les gens sont en paix. On peut vivre même en dehors des immeubles, seulement avec l'air congolais.
Merci. Merci beaucoup Arsène. C'est une question de préoccupation nationale, mais aussi une question de vision politique. On ne peut pas laisser aujourd'hui le domaine être déstabilisé par des considérations des gains à travers des guerres, des groupes armés, mais il faut considérer cela comme une préoccupation nationale très très importante. Merci beaucoup Arsène. 081-890-4969, 081-890-4969, 09-96-06-4969, 09-96-06-4969. Ce sont les deux numéros pour intervenir en direct dans ce magazine.
Pour son jeune. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition, c'est dans 100% jeune. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. Tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30, le lundi à 9h15.
Parole aux auditeurs.
Augustin, vous nous avez écrit d'Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Augustin.
Et, merci pour l'accord du verbe. Concernant le thème du jour, c'est un thème qui s'avère trop capital. Bah, je vais l'aborder en différents plans. Notamment, je vais prendre le plan sur la fermeture du parc Virunga et ses effets néfastes. Si nous prenons sur le plan social, la fermeture de ce parc aura vraiment des effets qui seront vraiment négatifs. Je prends, vous allez vous rendre compte que la province du Nord, dans sa partie Est, a plus de 40 millions d'habitants et que cette population ne vit que de ce parc. Et avec la pauvreté extrême qui ravage le pays, vous allez vous rendre compte que nous allons nous poser des questions. Comment va vivre cette population aussi longtemps qu'on a eu à fermer ce parc? Je prends sur le plan socio-professionnel. Le parc Kaouzoubienga, c'est un parc, et le parc Vion, allais-je dire, c'est un parc aujourd'hui qui est un grand employeur et qui a engagé plus de 3000 employeurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on aura à fermer ce parc aura aussi des effets négatifs par rapport aux personnes que le parc avait engagées. Estimez-vous que le parc comme Virunga, qui aujourd'hui reçoit plus de 2000 touristes par an, et que ces 2000 touristes qui viennent, ça aura aussi un effet, ça aura aussi à accroître aussi la caisse du parc. Prenons aussi sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, cette question de la sécurité va être vraiment une question qu'on doit vraiment analyser sur le plan fond. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser seulement la charge aux dirigeants du parc. C'est une question qu'on doit vraiment prendre, même les institutions nationales des États doivent vraiment discuter sur cette question. C'est-à-dire les gouvernements doivent vraiment collaborer avec les différents partenaires, notamment l'Union européenne. La Belgique, vous allez vous rendre compte que la Belgique s'est indignée de la fermeture où nous avons entendu le propos de Didier Reynders qui a vraiment, qui se lamente de cette situation désastreuse. Si on devra vraiment penser à la sécurité, c'est-à-dire le personnel qui gère même le parc, les gens qui sont chargés de la sécurité, les personnes doivent vraiment avoir vraiment une norme, doivent vraiment avoir la maîtrise de la sécurité et que ces personnes auront aussi des partenaires. Sur ce, nous demanderons vraiment une collaboration étroite entre le partenaire, entre les dirigeants du parc, entre les gouvernements, entre les différents partenaires.
Merci.
Et cette sécurité ne doit pas seulement se limiter au sein du parc, même aux alentours du parc, et que si ce membre du parc auront vraiment à collaborer avec plusieurs personnes et qu'on aura trouvé une solution. Sinon, si on continue qu'à prendre et à lever des mesures aujourd'hui, nous levons une mesure selon laquelle les personnes ne doivent pas vraiment se rendre dans le parc et qu'après vous allez lever la mesure et que la même situation va se répéter. Ce sera qu'il y a des habillés simples pour habiller Saint-Pierre.
Merci beaucoup Augustin. Voilà. Merci Augustin. Vous souhaitez qu'il y ait des mesures fortes en termes de sécurisation, mais aussi une politique qui permet de rendre plus efficace le travail de renforcement de la sécurité autour du parc, non seulement dans le parc, mais aussi aux alentours. Et ça, c'est la responsabilité. Vous êtes allé plus loin pour dire la RDC pourrait même solliciter de partenariats et d'appui, que ce soit avec certaines instances de la communauté internationale, pourvu que le tourisme soit protégé dans ces parcs parce qu'il est rentable. Christophe, vous êtes à Boutembo et vous avez aussi évoqué les cas de sécurité tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Je suis ravi d'avoir l'espace à la Radio Capi ce matin. Et comme je l'ai dit dans mon opinion, je pense que la sécurité, vraiment, c'est une chose que doit garantir au niveau de ce parc, et que ça ne soit pas seulement au niveau des parcs seulement, que ça soit au niveau de la province du Nord-Sud, parce que cette province souffre des atrocités pendant longtemps, On se demande, où est-ce que nous allons finir au Égypte?
Oui, Christophe, merci beaucoup. Oui, on vous écoute.
Comme on le dit souvent, ce patrimoine, comme ce parc de Virunga, c'est un patrimoine vraiment qui est pour l'intérêt de toute la nation. C'est pourquoi les autorités et la communauté internationale doivent mettre la main sur la patte afin de trouver la solution à cette sécurité, parce que c'est un manque à gagner pour toute la République vraiment
démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Vous avez interpellé là le pouvoir public, la communauté internationale, pour voir quelles sont les mesures fortes qui doivent être prises, parce que ce parc représente beaucoup, hein, c'est un patrimoine protégé, comme on l'a dit bien sûr, inscrit. C'est un patrimoine très important, non seulement pour le pays, pour la région et pour l'ensemble de la communauté internationale. Ifaso, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour à tout le monde.
Oui, Ifaso, si vous pourriez vous déplacer, parce que nous avons des petits soucis de liaison entre le studio et votre téléphone, oui.
Oui, tant que nous avons quelques problèmes de connexion, je vous
suis. On vous écoute, Ifaso.
Oui, merci beaucoup. Il y a la question d'aujourd'hui, la matinée.
Dommage, Ifaso, on pourra peut-être voir, si possible, Ifaso, on pourra vous recontacter, parce que là, on a un problème de liaison entre votre ligne et les studios. Le temps que la réalisation puisse revoir cela, on retourne à Goma. Touvérondi, vous avez suivi, hein, les amis sont revenus sur la question de la sécurité, nous en avons parlé plusieurs fois, mais il y a aussi cette question de l'urgence du problème aujourd'hui de la sécurité au niveau du parc et l'importance de ce tourisme. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a cet aspect de l'urgence au niveau du pouvoir public dans la manière d'aborder cette question du parc des Virunga et du tourisme, Touvérondi?
La question sécuritaire du Nord Kivu est une priorité des priorités pour le gouvernement, parce que on ne peut pas continuer toujours à penser qu'il faut sécuriser les 13% de la province qui occupe le parc national de Virunga sans mettre en exergue toute la sécurité de la province. Imaginez-vous, lorsque nous faisons la promotion touristique à l'extérieur, les gens lisent à travers les médias, il y a eu kidnapping à Matissi, il y a eu tuerie à Beni, il y a eu enlèvement à Goma, il y a eu à Nyiragongo en sécurité. Donc, tout cela concourt au prestige de la province du Nord Kivu. Donc, la question de la sécurisation du Nord Kivu devrait être une question prioritaire. À cela, maintenant, doit découler une particularité dans la sécurisation du parc national de Virunga. Tenez, Pierrot, lorsque la population se déplace de Goma jusqu'à Butembo, elle traverse le parc national de Virunga. Arrivée au niveau de Kiwanja, elle est obligée d'être escortée par les FARDC et les éco-gardes dans deux ou trois camionnettes pour traverser le parc. Et il arrive des moments où cette escorte-là est coupée par des coupeurs des routes qui n'ont plus peur de l'escorte et ainsi tuer les populations qui sont en train de faire simple voyage entre Goma et Butembo. Ça, c'est une priorité également, pour que la sécurité soit totalement rétablie. Sur l'ensemble, je me mets dans la peau du gouverneur Julien qui réfléchit jour et nuit à savoir comment arriver à redonner à cette population l'espoir de la même meilleure avec une sécurité. Mais ça fait plus de 12 ans qu'il est au pouvoir et qu'il écrit que la question sécuritaire. Donc pour moi, j'estime qu'il est important que la sécurisation du Nord Kivu soit une des priorités capables de permettre qu'on puisse isoler finalement l'aspect parc national de Virunga là-dedans. Le parc national de Virunga peut avoir des dispositifs particuliers,
Mais la sécurisation du Nord Kivu devra constituer une priorité des priorités. Et encore une fois, certains leaders de cette province, qui vivent même en dehors de la province, qui seraient en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre certaines bases arrières qui pourraient déstabiliser sécuritairement les Nord Kivu, devraient également comprendre que si le Nord Kivu n'est pas sécur, même si la brigade d'intervention sur les Virunga est en marche, même si les éco-gardes sont surmilitarisés, eh bien, il y aura toujours des couacs sécuritaires. Donc, il faut réfléchir dans la globalité pour tirer une singularité par rapport au pacte national là, de Virunga.
Voilà. On va rejoindre notre ami John qui nous appelle d'Isiro. John, merci d'avoir rejoint l'ensemble des auditeurs sur les antennes des radios Capi. Bonjour, John.
Bonjour, cher Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, John.
Et merci beaucoup pour m'accorder la parole. Concernant le problème des parcs dans notre pays, particulièrement la parc le parc de Virunga, c'est vraiment déplorable parce que c'est le parc qui attire beaucoup de faux au niveau national. Maintenant, pour parler à ces problèmes-là, moi, je proposerais que d'abord nos forces armées puissent d'abord collaborer avec les gardes des parcs parce que des fois, nous assistons à des enlèvements ou des tueries tout près à quelques mètres de la position de nos forces armées. À plus de cela, moi, je proposerais que la communauté internationale puisse s'appliquer pour aider quand même le gouvernement congolais, parce que les sécurités, là, je vois comme si notre gouvernement a déjà failli à ce niveau-là, que ça dit pour s'appliquer pour quand même essayer un peu de terminer un peu ce qui se passe au niveau de l'Est. À plus de cela, moi, je proposerais que Même le problème si les touristes arrivent pour visiter le parc, qu'on puisse escorter les touristes pour qu'ils puissent visiter quand même le parc. En plus de cela aussi, bon, on nous avait dit que non, on a installé la drone au niveau de Nord Kivu. Bon, c'était mieux d'installer ça au niveau des parcs nationaux, qu'ils puissent quand même contrôler les parcs parce que à ce moment-là, on va voir qui entre, qui sort, quel héberge qui se trouve là-bas. Que ça puisse nous donner quand même des informations. C'est vraiment ce que je proposerais pour qu'on puisse quand même essayer un peu de parler à ça. Mais ce qui est vrai, la politique de notre pays, bon, c'est très difficile. Parce que ces gens-là viennent ici pour s'exposer. Quand la politique ne marche pas, tout ne marche pas.
Merci beaucoup, John. D'ailleurs, vous avez ajouté un élément dans la sécurisation du parc, mécanisme de surveillance. Pourquoi ne pas faire usage des drones qui peuvent aussi, ces avions sans pilote, qui peuvent permettre de déterminer les mouvements de population dans le parc, que ce soit des groupes armés et tous ceux qui ont le mouvement suspect. Vous pensez que ça peut être aussi une grande contribution pour arriver à assurer cette question de sécurité. Bintou, vous êtes à Kimpese. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Mais vous savez que le tourisme ne peut pas se faire dans des milieux où il y a beaucoup d'insécurité. Nous avons un problème réel d'insécurité dans ce pays. Et il appartient à ceux-là qui ont le pouvoir de sécuriser les milieux et la population de le faire afin de permettre à ce que le pays puisse réellement bénéficier des œuvres liées au tourisme. Nous avons dans notre pays plusieurs endroits où les gens peuvent naturellement visiter et puis gagner beaucoup de moyens. Si vous passez par exemple au niveau du site Kivu, il y a des endroits, plusieurs endroits qu'il faut visiter. Si vous êtes dans la province du Nord Kivu, à partir de Beni jusqu'à Goma, mais tous ces tronçons là peuvent nous attirer autant de touristes. Malheureusement, c'est les tronçons les plus insécurisés. Donc c'est un peu difficile d'y aller. Nos mamans qui vont au champ ne peuvent même pas le faire puisqu'il y a le problème de sécurité. Donc les responsables de la République démocratique du Congo doivent tout faire pour mettre d'abord de l'ordre et la sécurité. C'est ce qui va permettre à ce que les pays soient fréquentés et que le tourisme puisse produire beaucoup d'argent, plus même que l'argent qui peut provenir des diamants, de pétrole ou autre chose. Nous avons un pays très vraiment bienveillant, malheureusement. Nous n'avons pas encore eu de bons dirigeants pour permettre à ce que ce pays puisse aller de l'avant. Donc, cette fois-ci, il faut que nous puissions tout faire afin que ce pays aille de l'avant et qu'on puisse quitter l'opprobre qui est en train de jeter sur la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Bintou. C'est une question de conscience, d'engagement et de priorité. Je crois que cette fois-ci, avec Ifaso Mbandaka, la ligne a pu s'améliorer. Ifaso, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Voilà, au début on a eu des petits soucis avec votre ligne. Hein. Quel est votre point de vue alors par rapport à cette question?
Oui, ma contribution serait que lorsque nous réfléchissons dans ce sujet, on ne tient pas seulement compte du passé concerné. On doit réfléchir sur tous les sages qui poussent aujourd'hui à toucher un sage et demain ça peut toucher d'autres sages. Le vrai problème, à ce niveau, le vrai problème est très loin. Le vrai problème sont au niveau des personnels, le niveau des équipements des personnels et le niveau de l'équipement des personnels. Normalement, cette imposition, cette option levée, elle est, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'on doit organiser le cadre de renforcement des capacités des membres qui sont dans les parcs pour pouvoir renforcer les capacités et aussi doter les autogardes d'un équipement complet. Puisque apparemment, au départ, quand on fait un équipement, je récite à mon frère, je dois l'offrir un emploi fictif, mais la personne à récupérer n'est pas en mesure de remplir, de faire son travail correctement. C'est pour cela que j'avais dit, comme j'avais dit au préalable là, on doit d'abord former le personnel. Quand on forme le personnel, on rapporte les capacités de personnel, on leur donne un équipement complet. Je pense qu'on peut trouver une des solutions dans ce problème. L'autre problème, c'est au niveau de la sécurité nationale. Tout ça, cette sécurité concerne tellement les gars. L'autre problème, c'est au niveau de la sécurité nationale. L'État, là, par contre, dans la table de l'État. L'État doit prendre la table de sécurité de rapporter le niveau sécuritaire dans tous les États nationaux. Parce qu'apparemment, il y a des fonctionnaires étrangers qui ont des gens de l'État dans des pays. Et en plus, ce sont des nationaux qui peuvent former des petits groupes de milices en train de ne pas créer des dégâts. Vous voyez que, d'une part, ça concerne le gouvernement et de l'autre part, ça concerne les problèmes voilà. De renforcement.
Merci beaucoup, Ifaso. Merci beaucoup, Ifaso, même si la. La qualité se détériore. Vous avez insisté sur le recrutement des gardes-parcs, mais aussi leur équipement. En attendant qu'on écoute Malonga qui est au Bandundu, on revient à vous, Tuverundi. Si vous avez suivi un groupe de nos compatriotes sont revenus sur l'implication de la communauté internationale, vous qui travaillez dans ces domaines de ressources naturelles, pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait, ou soit y a-t-il des programmes aujourd'hui appuyés par la communauté internationale, parce que beaucoup de compatriotes sont revenus sur cette question, qui peut aider aussi la RDC à gérer la question des sécurités et des fréquentations au parc national de Virunga Tuverundi.
Nous avons le plaisir de dire que la communauté internationale est présente au parc national de Virunga. Retenez qu'à travers les 11e fêtes de l'Union européenne, il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui visibles dans le parc national de Virunga, tant sur le plan du renforcement du personnel, tant sur le plan d'équipement de ces parcs, tant aussi sur le plan de quelques projets à valeur communautaire. À ce titre, ce n'est pas seulement comme l'Union européenne institution, mais il y a aussi d'autres expatriés ou d'autres étrangers qui interviennent. Je vais vous donner le cas de la fondation Howard Buffett, qui a construit pour les communautés le barrage de Matébé, qui construit également le barrage de Lubero, malgré que les activités sont suspendues du fait de Maïmaï qui essaye de déstabiliser les personnels qui travaillent sur les barrages de Lubero, un barrage qui va aussi profiter aux communautés de Lubero. Il y a eu Moutouanga qui a déjà été là où tu es, donc où donner à la communauté à travers l'Union européenne. La communauté internationale est présente, l'UNESCO est présent. Lorsque nous voyons l'ampleur par laquelle l'UNESCO donne seulement un appui en termes de lobby administratif et même au pouvoir, nous voyons au moins la main de la communauté internationale. Aujourd'hui, le parc national de Virunga est géré dans le cadre du partenariat public-privé entre la RDC et les investisseurs privés. Donc, cet aspect est déjà présent. Est déjà présent dans les Virunga, mais seulement il y a encore un besoin. Moi, je pense que la grande question, la grande réflexion devrait être sur l'intervention nationale. L'international est présent, mais l'intervention nationale semble ne pas vraiment se manifester sur le plan et investissement et même sur le plan
d'encadrement, à part les salaires que les écogardes matriculés reçoivent du gouvernement, si nous regardons le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale au profit de la conservation, ce budget représente peut-être 0,015%. Si on doit considérer que le secteur de l'écotourisme ou le secteur de la protection de l'environnement peut être considéré comme un des poumons du développement de ces pays, l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale devra donner assez de pourcentages de moyens au gouvernement pour intervenir. Et là, l'intervention nationale sera là. Je ne refuse pas qu'à quelques échelles près, il y a une intervention nationale, mais qui ne se sent pas. On laisse penser que les parcs appartiennent aux étrangers, pourtant ces parcs appartiennent d'abord aux Congolais avant d'être donnés à la nation, à la communauté internationale tout entière. Donc, je suis de ceux qui pensent que, pour le moment, ce qui s'est fait par la communauté internationale au parc national de Virunga est déjà là et suffisant, mais ce qui s'est fait par la communauté nationale pour le parc de Virunga est insuffisant et attend encore de devenir.
Voilà. On va écouter les deux derniers auditeurs, je crois, bien Malonga. Vous êtes à Bandunduville et John Andemba. Malonga, bonjour.
Bonjour, notre invité.
On vous écoute.
Bon, pour moi, vraiment, je ne partagerai pas pour l'association de la communauté internationale. Bon, ce que moi je vois, il faut bien collaborer avec la population qui entoure le parc. Puisque les gardes de parc vivent mal avec cette population, et c'est cette population qui cause vraiment l'insécurité pour les gardes de parc et pour les visiteurs. Quand est-ce qu'on peut, on peut avoir un jardin, je peux dire, un jardin ou bien une plantation, et vous n'êtes pas bien avec votre voisin? Le voisin va vous créer des problèmes. Alors, il faut qu'il y ait une politique pour associer, ce n'est pas vraiment dans l'intégralité, mais dans la sociabilité, cette population qui vit aux alentours, pour qu'ils sachent que oui, réellement, ce parc c'est pour notre intérêt. Mais s'ils voient que ce parc est pour leur nuire, pour les insécuriser, eux-mêmes ils peuvent se rendre à ces milices-là pour insécuriser ceux qui sont là-bas. Raison pour laquelle, et pour éviter que nous, la RDC, nous ne sommes pas mal vus toujours dans la communauté internationale. Vous voyez que ça ici, nous venons de faire de les expatriés.
Merci, merci beaucoup Malonga. Vous avez insisté sur la collaboration entre le garde-parc ainsi que les populations riveraines, mais c'est pas seulement en termes de cette collaboration sur la sécurisation, mais c'est aussi les bénéfices qu'ils doivent tirer des dividendes de l'activité touristique. Vous l'avez suivi, Touvé Rundi, notre second invité, a insisté sur les 30% qu'Elie Sessène reverse directement à ces communautés. C'est le retombé de l'activité touristique. Et vous estimez qu'ici, il y a une bonne collaboration avec ces populations. Il y a moyen de pouvoir instaurer les mécanismes de surveillance pour dénoncer ou bien pour prévenir, lancer l'alerte en cas de mouvement suspect pour attaquer le parc de Virunga. Merci beaucoup Malonga. John, vous êtes en débat au Kasaï Central. Bonjour John.
Bonjour M. Perrault.
On vous écoute.
Bon, effectivement M. Perrault, j'aimerais au moins savoir ce qui concerne la situation du tourisme en RDC. Pourquoi peut-être les gens peut-être ils sont à dans des frontières, par exemple dans les parcs de Virunga et autres là, pourquoi nous demandons à ce que peut-être pourquoi la sécurité n'y est pas. En fait, notre pays avait enregistré au moins certains cas dans des années antérieures et aujourd'hui, nous entendons toujours parler de ces sottises-là. Pourquoi les gens ne respectent pas les touristes, peut-être c'est par manque de quoi. Et notre gouvernement va vraiment songer à ce que...
Alors, John, dans votre argumentaire, vous estimez que c'est une question vraiment de sécurité nationale. Il faudrait que le gouvernement ait les mesures prioritaires. Merci aux auditeurs, vous êtes nombreux. On revient à vous, Touvé Rundi, parce qu'on doit terminer ces débats. Le souci, c'est de voir aujourd'hui les activités reprendre. Comme vous l'avez dit, il faut y aller jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que les activités pourront reprendre en 2019. C'est un grand manque à gagner. Et pendant ces temps, nous pensons qu'au niveau du pouvoir public et de tous les autres partenaires, des mécanismes pourront être mis en place pour pour arriver vraiment à redonner la confiance aux touristes. Quel est votre point de vue pour pouvoir conclure cet échange de Tuvirundi?
Je pense que l'opportunité doit être saisie par les différents acteurs intervenant dans le système de la sécurisation, dans le système de la viabilisation des actions qui sont en train d'être faites, et même dans le système de l'appropriation de l'avantage du parc à côté des communautés, pour que cette période de suspension, pour cette une période de rectification des tirs. Il est important que, même lorsque nous parlons de 30% qui sont reversés, il y a besoin que ces 30% reviennent réellement dans les actions communautaires ou avec les communautés, pas faire des actions pour les communautés à leur nom avec l'argent qui doit aller vers eux. Ça aussi, ça doit constituer une réflexion à l'interne au sein de l'UTCN pour arriver à avoir une bonne coalition avec les communautés locales qui vont voir bénéficier d'eux-mêmes l'argent qu'ils reçoivent de ces 30%. Sur le plan sécuritaire, il y a vraiment encore une insistance à faire, Pierrot. Le gouvernement et tous les partenaires devront mettre en marche la brigade qui a été déjà décrétée, mais aussi sur le plan du développement des infrastructures. Aujourd'hui, on est en train de voir la traversée des zones vers Routou en train d'être prise par un attributeur pour que la route soit fréquentable. Ce sont des choses qui doivent être encouragées et maintenues d'une façon permanente, afin qu'à l'ouverture, on ne puisse plus avoir des motifs comme quoi tu dirais non, la route n'est pas bonne, les infrastructures d'accueil n'ont pas été bien faites, et même les 30% ne sont pas vus dans les communautés. Donc tous ces mécanismes-là devront être réfléchis. Je pense que l'UTCN doit ouvrir ses portes pour des bons débats internes avec les communautés, avec les leaders locaux, avec les leaders de la société civile, pour que finalement ce qui est arrivé, Dieu merci, il n'y a pas eu de pire, n'arrive plus, et que nous puissions bien jouir de notre or vert qui est le parc national de Virunga.
Mais vous avez tout à l'heure évoqué la modicité du budget qui est affecté à ces secteurs touristiques. Pensez-vous aujourd'hui que si le pouvoir public n'investit pas de capitaux importants, est-ce qu'on peut arriver vraiment à mettre en place un mécanisme plus efficace?
C'est toute cette réflexion. Je suis en train de paraphraser le ministre honorable Moutir Abachar qui pensait qu'il va beaucoup booster pour que le gouvernement puisse prendre en charge totalement, au moins revoir sa politique d'investissement dans le secteur touristique. J'espère qu'il a quitté le ministère du tourisme avec, en laissant derrière lui des propositions concrètes. Donc ça aussi, ce sont des choses. Au niveau national, si et seulement si le ministère du tourisme a boosté au niveau du conseil des ministres pour que, lors de la présentation du budget, l'aspect d'investissement par le gouvernement soit clairement haussé, nous allons arriver également... Le Rwanda aujourd'hui, pour ne pas le citer, prend même les dispositions d'aller sponsoriser une équipe européenne de football avec le logo Visit Rwanda. Nous sommes en mesure d'aller plus loin, nous avons plus de richesses. Donc, mm-hmm. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas nous faire. Si le gouvernement s'investit, nous allons vivre un paradis ici dans la province nord.
Merci beaucoup Tuvirundi. Je rappelle que vous êtes journaliste et environnementaliste. Hein. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aussi à Olivier Bonigaba, ministre provincial de l'Environnement et Tourisme dans la province du Nord Kivu. Les auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à l'équipe des productions. Gilles Lungembo était à la coordination de ce magazine, mise en onde par Jean-Claude Siala. Nico Kalamba était et au standard et à la réalisation. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Nous vous souhaitons d'agréables moments en compagnie de Radio Okapi. Merci et au revoir.